Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Eh bien, lire deux textes. Je vous invite à ouvrir votre Bible d'abord dans l'Évangile de Marc. Ils seront très, très courts, très simples. Évangile de Marc, chapitre 6, versets 30 et 30. Voilà. Et ensuite, nous nous reporterons dans le livre du prophète Ésaïe. Mais commençons par Marc 6, verset 30. Les apôtres, s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Deuxième lecture, s'il vous plaît, je vous ai dit Ésaïe, chapitre 28 et verset 12. Ésaïe 28, verset 12. Voilà. Il lui disait, « Voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué, voici le lieu du repos, mais ils n'ont point voulu écouter. » Laissez reposer celui qui est fatigué, voici le lieu du repos. J'ai intitulé ce message que nous allons partager ce matin « La trêve de Dieu ». Alors ça nous rappelle des souvenirs d'histoire. Quand on a appris cela, faisait le Moyen-Âge, la trêve de Dieu. Et je crois que vous allez le découvrir avec moi, eh bien il y a des temps et des moments où nous avons besoin, immensément besoin, même si nous ne voulons pas nous l'avouer nous-mêmes, même si nous ne voulons pas le reconnaître. Nous avons besoin de trêve. Nous avons besoin, comme le texte ou les textes que nous avons lus, de repos. Alors il y a probablement un repos commun à bien des gens, mais il y a un repos particulier que Dieu veut nous donner. Quelque chose de tout à fait spécifique et que nous allons découvrir à travers différents aspects de la parole de Dieu. Il n'y aura rien d'extraordinaire dans ce que je vais dire, mais se reposer, c'est aussi nécessaire que boire et manger. Parce que nous en avons besoin immensément, et le temps qui est le nôtre, dans la période, même si le soleil n'est pas au rendez-vous, en tous les cas, peut-être ça vous permet de vous reposer davantage. Parce que, c'est quelque chose d'indispensable, probablement, après une année de travail, de soucis, de difficultés. Vous savez que Dieu a voulu que sa création se repose et se repose de ses fatigues. Donc ça devait être certainement au programme parce que nous ne sommes que des êtres et nous sommes dans une enveloppe charnelle et tout a ses limites. Et pour ce faire, Dieu a créé l'alternance du jour pour se fatiguer et de la nuit pour se reposer. Quelquefois, certains ont inversé les rôles. Mais toujours est-il que, quoi qu'il en soit, ce sont là, la pensée créationnelle de Dieu. Et dans notre monde moderne, et vous en savez ce qu'il est, vous en savez quelque chose, les hommes ont inventé ou réinventé, je dis peut-être davantage réinventé, les congés, les week-ends, et ça existait déjà depuis, certainement depuis bien longtemps, dans la façon de vivre, et entre autres la Bible nous en parle, chez les anciens Hébreux. Et oui, il y avait là un cadre particulier où Dieu prenait soin de sa créature. Vous savez, il y avait le sabbat, il y avait l'année sabbatique, il y avait le jubilé. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais ça avait été fait pour le repos. Dans cette liaison nécessaire où il nous est dit que Dieu a créé, et ensuite il s'est reposé. Et il a mis les hommes, il les a lancés dans la carrière de l'existence, et ô combien épuisante la vie. Et Dieu avait prévu aussi des temps de repos où les hommes ont besoin de reprendre leur souffle. Et c'était pas seulement vrai pour les hommes, mais c'était vrai aussi pour les bêtes. C'était vrai pour la nature. dans la végétation également. Et tout se reposer pour reprendre un second souffle, pour repartir finalement de plus belle, mais avec des forces neuves. Notre société dite de loisirs, et où les hommes ne savent plus tellement comment faire pour rester tranquilles, parce qu'il y a tellement de sollicitations de droite et de gauche, alors en fait notre société offre 1000 possibilités pour s'agiter, là où l'on devrait, excusez-moi l'expression, mais les hommes devraient décrocher et se refaire. Alors ça me permet de vous souhaiter de bonnes vacances quand même, je le dis tout de suite. Au moins que vous puissiez, après la réflexion de ce texte, eh bien de dire, voilà, je suis là, mais je suis là pour quelque chose. Parce que vous en avez probablement besoin. Le terme « repos hebdomadaire » ou « repos annuel » est peut-être inadéquat dans notre civilisation survoltée. Parce que nous vivons quand même des temps où... c'est un petit peu partout électrique, hein, il faut le reconnaître. Et il serait plus juste, finalement, de parler de défoulement collectif. À regarder un peu ce qui se passe, à en croire la fièvre qui précipite des masses d'individus, des quantités d'hommes et de femmes, d'enfants, sur les routes et vers leur lieu de villégiature. Je ne fais pas partie de Bives en Futaie. Je ne suis pas en train de vous donner des indications routières, mais quelque part, on le constate, notre société est ainsi, où il y a des bouchons, voyez, hein, et les gens sont là, et ils prennent leur mal en patience. Alors quand il fait un temps clément, comme actuellement, parce qu'on a un formidable été, ça ne pose pas de problème, mais quand en 2003, il y avait la canicule, et là, ça posait peut-être davantage de soucis. Alors, tout cela pour... eh bien, rompre les fatigues, où les gens sont éreintés, ils sont stressés, alors que la sagesse élémentaire voudrait la décompression. Et on assiste plutôt à une course effrénée, durant 24-48 heures en fonction des week-ends naturellement, ou alors pendant 2 ou 3 semaines, une compétition, disons-le peut-être de cette manière, à qui fera le plus de choses possible pendant le laps de temps où c'est normalement un temps de repos, un temps où on se délasse. Beaucoup de choses au mépris du sommeil, probablement, au sacrifice du sommeil, d'une alimentation saine, bourré de proximité, de bruit, finalement de musique. Je l'ai dit tout à l'heure, d'interminables embouteillages sur les autoroutes, quelquefois dans les magasins où les gens se bousculent, sur les plages et autre chose. Voilà, j'ai fait le tour maintenant. Mais c'est vrai, c'est notre société. Quelquefois, il faut le dire pour réaliser qu'on vit dans un drôle de temps, on vit dans un monde assez bizarre, assez qui devrait nous interpeller, nous chrétiens, parce que nous avons peut-être une autre réflexion sur les choses. Et il paraît qu'on appelle ça les vacances. Je ne juge pas, hein. Je tiens à le dire, je ne stigmatise pas, je constate, parce que j'ai des choses à dire après, par rapport à la parole de Dieu. Vous savez, on voit tant de chrétiens dans nos églises, et on soigne de plus en plus de dépressifs, enfin on accompagne de plus en plus de dépressifs, des gens qui n'arrivent plus à connecter, tant dans la vie sociale, la vie professionnelle, où quelquefois, eh bien, ça peut aller jusqu'à des explosions dans les couples et puis dans les familles. Mais les résultats ne viennent pas. On ne peut pas dire que ça naît de comme ça. Non, il y a des choses derrière qui font que, petit à petit, mis bout à bout, eh bien, on s'aperçoit que les gens sont malheureux, quelque part. Et je le constate, et vous le constatez aussi autour de vous, mais je suis placé aussi pour le constater également dans l'Église. Et là, peut-être qu'il y a un problème à considérer quand il s'agit des enfants de Dieu. Quand il s'agit des gens de l'extérieur, on a l'Évangile pour leur donner. Un Évangile qui a transformé notre vie. Un Évangile qui a fait des miracles dans notre existence. Un Évangile extraordinaire qui nous a apporté le repos, comme Jésus le dit, on en reparlera tout à l'heure. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Mais quand il s'agit des chrétiens qui ont commencé par le repos parce qu'ils se sont convertis et qui replongent, qui repartent et qui ont une attitude de fièvre et ne peuvent plus reconnaître de rien à rien, alors là c'est peut-être beaucoup plus préoccupant. Vous savez que le mot repos aujourd'hui, c'est un mot que l'on tient un petit peu, qu'on a édulcoré. On ne l'aime pas trop parce que finalement, ce mot repos est finalement réservé aux malades que l'on met dans des maisons de repos. Alors, il est un petit peu péjoratif ce mot. On préfère trouver d'autres noms, hein, mais c'est pas ça. Le repos, c'est pas d'aller forcément dans une maison de repos. Être en bonne santé, c'est quelque chose d'important. Un équilibre physique, un équilibre moral, un équilibre psychologique, eh bien, vous aurez l'équilibre spirituel, mes frères et sœurs. Parce que tout va ensemble. Nous sommes, eh bien là, on est complet, nous sommes des êtres tripartites. Et attention, on ne peut pas négliger un élément et puis que finalement, il n'y ait pas des répercussions sur d'autres parties de notre vie. Alors, nous avons besoin de cette réflexion. Et souvent, les gens extrêmement fatigués donnent encore et veulent encore donner la preuve qu'ils sont bien vivants, ils en font encore davantage, pour dire « je suis bien vivant ». Mais peut-être pourrions-nous parler d'une attitude suicidaire. Attitude suicidaire, et cette attitude suicidaire n'est-elle pas symptomatique, au contraire, d'un désir d'échapper à l'ennui de la vie? Alors vous allez me dire, mais les enfants de Dieu n'ont pas d'ennui, tiens. Quelquefois, il y a des enfants de Dieu qui s'ennuient même au cœur de l'Église. Hein? Et on a, bien sûr, parfois, eh bien là, quelques signes précurseurs d'un désir ou d'une manifestation d'un désir d'échapper à l'ennui de la vie, ou tout simplement à sa monotonie et de se retrouver avec soi-même. Alors on fuit. On se dit non, c'est pas possible, je ne peux pas quand même passer une demi-heure tranquille. On ne le supporte pas. Et tout cela pour réfléchir un petit peu. C'est bien de réfléchir. Il nous est dit que dans les livres des Proverbes, je ne restitue pas tout à fait le texte, mais il est dit que celui qui réfléchit, eh bien, s'en trouve bien en tous les cas. Et il y a des réflexions qui sont positives. Il y a des réflexions qui sont là pour nous montrer que quelquefois, eh bien, il est bon de se tenir devant Dieu. Et vous alliez la réflexion avec la prière, c'est bien, hein? C'est peut-être mieux aussi. Notre monde moderne vit une hantise. Il vit dans la peur. Mais quelle est-elle, cette peur? Précisément, s'arrêter pour souffler, délaisser son corps malmené, décompresser des agitations de l'âme et de l'esprit. Eh oui. Et de pouvoir dire, eh bien, je ne fais rien. Alors, que ceux qui vous voient et qui constatent que vous ne faites rien vous traitent de paresseux, laissez-les dire. Enfin, si vous faites ça tout le long de l'année, je ne réponds pas de la réputation. Mais, quelquefois, on se sent culpabilisé par le regard des autres quand on ne fait rien. C'est vrai, on se dit, mais il faut que je fasse quelque chose. Alors, il y a des actifs et des superactifs. Il y a des gens qui sont peut-être plus ou moins bons à négocier, finalement, eh bien, le repos, et puis, sans se moquer des autres, hein, surtout pas, hein, mais de dire, eh bien, voilà, moi, je prends mon repos parce que j'en ai besoin. Et puis, si on vient me dire, mais pourquoi tu ne bouges pas? Pourquoi tu ne te rumbates? Tu devrais faire ceci. Eh bien, écoutez, si vous reposez, c'est une bonne chose. Et si vous reposez sur Dieu et en Dieu, et que vous faites du bien pour sa gloire, eh bien, les autres pourront dire ce qu'ils veulent. Après tout, vous savez pourquoi vous le faites. Mais c'est difficile de stopper la cadence quasi infernale ou mécanique, parce que ça donne le vertige. Eh oui. J'ai constaté, et vous l'avez certainement constaté, mes frères et mes sœurs qui travaillaient, que il fut un temps où on avait des vacances qui étaient un petit peu plus longues qu'aujourd'hui. On prenait un mois de vacances, et la première semaine, c'est une semaine qui était un peu sacrifiée. Parce que quand on sort du bureau, quand on sort d'une activité intense que l'on a eue pendant 10 mois ou 11 mois, vous arrivez, vous retrouvez un petit peu là dans les montagnes au bord de la mer, c'est un autre cadre, c'est autre chose, et souvent on fait un petit peu de déprime, vous avez remarqué. On ne sait plus où on en est, le corps se relâche, on ne fait que dormir et ceci et cela, et ça, ça donne le vertige, et on n'aime pas cette impression, parce qu'on a le sentiment de, ben, il nous manque quelque chose. On a tellement vécu dans le stress, on a tellement vécu en force, on a tellement fait les choses dans le forcing qu'il nous manque quelque chose. Mais C'est un passage oublié, alors hein, obligé, si quelquefois vous perdez 2 ou 3 jours en début des vacances, et parce que vous avez besoin de vous reposer, reposez-vous, parce que le reste des vacances sera meilleur après. J'ai souvent entendu cette réflexion des gens qui revenaient de vacances et qui disaient « Ah là là, alors t'as passé de bonnes vacances ?»« Ah oui, mais je suis fatigué. » Normalement, les vacances, c'est pour se reposer. Je suis fatigué. Alors, bon, chacun voit, comme on dit, hein, comme il veut. Et vous savez, dans cet état intérieur, j'essaie d'analyser, hein, je ne vais pas faire de la psychologie ce matin, mais la psychologie chrétienne, celle de la foi et spirituelle, ça, celle-ci, elle est importante. Les gens ont le réflexe du naufragé. Je vais vous expliquer. Parce qu'un naufragé, plus il veut se sauver de la noyade, plus il se débat. Et plus il s'agite, plus il s'épuise, et moins il a de chances de s'en sortir. Et vous faites ça sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et puis comme ça vous multipliez ça tout le long de votre vie, vous allez voir qu'à un moment donné, on coule. C'est normal. Il faut des temps où nous marquons le pas et que nous nous tenions devant le Seigneur. J'ai vu parfois des frères et des sœurs dans les églises qui ne pouvaient pas s'arrêter. Ils prétextaient naturellement d'avoir des responsabilités, ce qui était vrai, ou d'autres obligations impératives. Et il a fallu qu'ils passent malheureusement, et je crois que Dieu ne voudrait pas arriver à cela, qu'ils passent par nécessité d'une opération, d'une intervention chirurgicale ou d'une fracture ou d'autre chose pour se retrouver dans le lit. Et quand vous avez les pieds dans le plâtre ou les jambes dans le plâtre, qu'est-ce que vous faites? Vous ne courez plus, là. Et là, vous êtes bien obligé de vous arrêter. Et très souvent, la confession de ces chrétiens ont compris le sens des choses. Et souvent, ils sont venus avec ce verset, oui, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et c'est vrai que quelquefois, il y a parfois des fractures, il y a des fissures, des brisures, des incidents, des accidents dans notre vie. Et on se dit, ah là là, ça y est, Seigneur, pourquoi tu permets ça? Je suis coupé dans mon élan. Et au bout d'un certain temps, on s'aperçoit que tout le monde s'en trouve bien, la personne elle-même, la vie spirituelle de la personne, mais quelquefois la famille s'en trouve bien aussi. Non pas parce que le monsieur est à l'hôpital et on est tranquille. Mesdames, surtout, faites attention, hein, ne mettez pas des pierres d'achoppement devant mon mari pour qu'il tombe dans l'escalier et puis que vous l'envoyez pendant 3 mois à l'hôpital. Enfin bon, non. Mais toujours est-il que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, parce que Dieu veut que nous ayons une vie équilibrée. Et ça, c'est important, hein, vous l'avez souvent entendu, ça. L'homme moderne gesticule. Allez. Nous, on vit dans une région, elle est formidable, ici, on est au bord de la mer, c'est très bien, hein, on est bercé. Mais je m'imagine ceux qui vivent dans les mégapoles, hein, dans les grandes villes, etc., hein, c'est quelque chose. On a un rythme, mais on le prend aussi, hein, ici. Hein. Ça va vite, hein. Ça va vite. Les gesticulations. Il y a maintes manières de se reposer vraiment et sainement. Mais qui aurait l'idée de chercher dans la Bible la réponse à la préoccupation légitime de trouver le vrai repos? Celui capable de défatiguer, de rafraîchir, de vivifier totalement et complètement. Nous, les chrétiens, nous avons trouvé ce secret. Les enfants de Dieu, les lecteurs de la Bible, hein, les hommes et les femmes de foi, il y a des conseils sages. Et ils sont bons, ces conseils. Ils viennent de celui qui nous a créés. Celui qui nous a fabriqués, celui qui nous a lancés dans la carrière de l'existence, et il sait très bien les capacités. Il a fait un corps, il nous a fait un corps, et il est quand même merveilleux. Hein. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, dit David. C'est vrai, mais attendez, hein. Excusez-moi l'expression, je ne voudrais pas être vulgaire, mais il ne faut pas pousser les mécaniques. Hein. C'est comme dans une voiture, c'est pareil. Hein. À un moment donné, il y a des choses qui ont besoin d'être réparées, vérifiées, remises en état. Vous connaissez l'histoire, moi je la trouve... Je la trouve très truculente, cette petite histoire. Vous savez, quand il y a Marie et Marthe, hein, alors Marthe, elle est en train de taper sur ses casseroles, et il y a Marie tranquille qui est en train d'écouter Jésus. Et là, Jésus va lui dire à Marthe, il va lui dire, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mesdames, ça s'adresse pas aux messieurs, hein. Mesdames, peut-être que le Seigneur, dans certains situation de votre vie pourrait vous dire, mais tu t'inquiètes et tu t'agites pour si peu de choses. N'y aurait-il pas un moyen terme? Quelquefois, on fait beaucoup de choses pour échapper à d'autres choses. Pour se donner finalement, eh bien là, le sentiment, la conviction que, eh bien, on doit les faire. Bien sûr que l'on doit faire des choses. Je ne plaide pas pour la paresse, hein, vous avez compris. Mais je plaide pour le repos. Un saint repos. Quelque chose de bon, de bien. Alors, je sais que vous allez me dire, mais moi, j'ai des responsabilités. On me pousse. Alors, c'est vrai. Et je compatis tout à fait avec vous. Combien j'ai entendu de frères et de sœurs qui sont venus nous voir en disant, mais je suis dans une entreprise. Je suis dans le commerce. Ça, c'est quelque chose aussi. Hein. Et on ne me laisse pas le choix. Il faut que je fasse là. Alors, moi, je voudrais vous encourager. Votre repos, eh bien, peut-être d'autant plus. Le Seigneur va vous le donner. Mais rentrez dans le créneau que le Seigneur vous a ouvert, spécialement dans votre cas, dans votre situation, parce que lui, il la connaît, votre situation. C'est lui-même qui vous a donné le travail. Il va vous donner ce qui l'accompagne. J'aime bien cette parole. Quand il est dit ceci dans le psaume 34, il est dit ceci quand Dieu dit, mais je t'enseignerai, c'est ce que l'on fait ce matin. J'aurai les regards sur toi, je te conseillerai. Alors, le Seigneur veut peut-être justement nous conseiller, parce que vous voyez qu'il y a très très peu de possibilités pour vous de vous reposer. Eh bien, le Seigneur va vous donner un créneau pour vous reposer, et c'est inattendu et ça va surprendre tout le monde. Ouais, parce qu'il sait que vous en avez besoin. Alors, nous parlions de la Bible, et moi je dis que la parole de Dieu offre la réponse. Écoutez ceci. C'est un texte que j'aime beaucoup, parce que on me l'avait offert un jour, dans une situation où j'étais pas bien. Il est dit « comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. » Eh bien, mes frères et sœurs, je voudrais que ce matin, dans ce que vous allez entendre, dans ce que nous allons poursuivre, « comme une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. » Cette terre lointaine, elle est en haut. C'est l'Esprit de Dieu qui nous parle. C'est la parole de Dieu. Mais elle vient pour nous parce que Dieu a compassion de nous, de nos fatigues, de nos épuisements, de nos soucis. Et vous avez remarqué, quand on est fatigué, on ne comprend pas les choses comme il faudrait les comprendre. Quand vous n'avez pas dormi pendant des nuits, quand vous êtes sous la pression de l'anxiété, de l'inquiétude, de toutes sortes de choses liées finalement à l'activité, qui n'est peut-être plus de l'activité mais de l'activisme, et plus on y va, plus on ne peut plus s'arrêter. Alors à ce moment-là, eh bien, Dieu veut nous donner vraiment quelque chose qui nous rafraîchisse. Ça, c'est dans le Proverbe 25. De si loin et aussi longtemps, Jésus nous parle du repos sous forme d'invitation et de promesse. Vous avez remarqué que ce n'est pas un commandement. Si, il y en a un. Quand il est dit de respecter le jour, d'accord. Bon, ça, c'est l'ancienne alliance. Mais quand je parle de Jésus, le Nouveau Testament, l'esprit évangélique, qui est l'esprit de la liberté, hein, et du choix personnel, responsabilisant les gens. Alors à ce moment-là, je dis bien que finalement Jésus nous entretient du repos sous forme d'invitation et de promesse. Et il le dit d'une manière admirable. « Je vous donnerai du repos, vous trouverez du repos pour vos âmes. » Le corps, l'âme, l'esprit. On apprend ainsi une chose que cette proposition, c'est que l'âme, autant que le corps, a besoin de se reposer. Ouais. Et je dirais même, il est plus facile de guérir des fatigues excessives du corps que des fatigues et des épuisements excessifs de l'âme, qui quelquefois, eh bien, portent des noms comme anxiété, angoisse, dépression sévère, et qui, eh bien, nécessitent vraiment beaucoup plus de temps. Tout cela, c'est lié. Il apparaît très souvent que les épuisements du corps ont pour origine le surmenage, ce sont des mots que vous connaissez hein, naturellement, de la vie intérieure, c'est-à-dire de l'âme. Et pourtant, Jésus n'a pas été avare, nous pourrions dire, en conseil pour la tranquillisation ou la quiétude de nos âmes. Nous ouvrons l'évangile de Matthieu, et dans le sermon sur la montagne, Jésus commence par dire, comme le grand message qui inaugure la foi, ne vous inquiétez de rien. Vous êtes inquiété cette semaine? Personne. Bravo. Bon, je change de sujet. Mais je ne suis pas si sûr, vous ne me dites rien, mais quand même. Hein. Bon, je ne veux pas vous questionner. Ouais. Les causes du mal sont davantage dans un intérieur dégradé, usé, épuisé, lassé, qu'il faut soigner avant, et c'est là que Jésus nous offre son aide. N'attendez pas que les choses prennent des proportions. Il y a des gens qui sont beaucoup plus fragiles physiquement. Il y en a d'autres qui sont fragiles psychologiquement, moralement, si vous voulez. Il y en a qui ont les deux, hein. C'est pas un avantage. Hein. Mais quand on est passé par là, je peux vous dire qu'on peut comprendre les autres. Et il y a quelque chose de subtil, je dirais, particulièrement dans les atteintes de nos âmes, c'est que nous avons un ennemi qui travaille pour nous faire couler, hein, ça c'est sûr. Nous sommes parfois les artisans, nous sommes parfois des imprudents, nous sommes des inconscients, parce que nous ne prenons pas toujours la mesure, finalement, des fatigues que nous nous imposons, et quelquefois on les impose aux autres, hein. Ça c'est pas normal. Et nous nous laissons prendre au piège dans un filet qui nous enveloppe. Je parle de la dépression. Et quelquefois, on ne s'en aperçoit même pas en disant « bah oui, mais bon, je m'en tirerai ». Et c'est quand on est dedans qu'on se dit « maintenant, ça y est, je suis prisonnier ». Et c'est à ce moment-là qu'on commence à crier à Dieu. C'est dommage, c'est trop tard. Je le dis parce que je connais bien le mécanisme, pour l'avoir visité à plusieurs reprises. Hein. Alors, je crois que Jésus nous offre son aide. Je voudrais dire que c'est ce matin, mes frères et mes sœurs qui souffraient physiquement, qui souffraient moralement. Et peut-être qu'il y a une fatigue quelque part derrière. Je ne peux pas dire que c'est cela, c'est pas la réponse absolue. Mais on est là dans un temps de réflexion et ça tombe bien parce qu'on est en vacances. Enfin, pas tous. Moi, je travaille aujourd'hui. Alors, souffler n'est pas simple dans un monde... Oui, je dis bien, souffler n'est pas simple. Dans un monde... qui n'a jamais été aussi perturbé et tourmenté, dont le rythme quotidien précipite tôt ou tard les individus dans la déprime, parfois même dans le désespoir. Et le désespoir, ça s'appelle quoi? Au bout du compte, ça peut devenir le suicide. Parce que là, on est tellement épuisé, on est tellement au bout, on a tout consommé. Et il y a des gens qui plongent dans le désarroi, dans le désespoir. On ne sait pas arrêter les aiguilles. Hein. Vous savez, il y a une vieille chanson, moi je n'ai pas connu ça, je n'étais pas né à l'époque, mais hein, on ne sait pas arrêter les aiguilles de cette horloge qui est folle. Et pourtant, je voudrais vous raconter une petite histoire qui illustre la nécessité d'être réparé par Dieu. Il est notre créateur, mais il est notre réparateur. Et il est celui qui veut nous guérir, Dieu, Jésus, et celui qui nous guérit. Je crois à la guérison divine physique, je crois à la guérison physique, à la guérison psychologique et morale du Seigneur. Alors c'est l'histoire, vous l'avez peut-être déjà entendue, mais je la répète. Hein. C'est un client qui un jour, enfin un homme qui passait dans la rue, et il se trouve devant un horloger, il pousse la porte, il rentre chez cet horloger, et il a une enveloppe à la main, tout simplement, et il le présente sur tout simplement le comptoir, et il montre dans cette enveloppe, il sort de cette enveloppe, deux petites aiguilles, tout simplement. Alors il lui dit, voilà, monsieur l'horloger, il faut réparer car les aiguilles ne marchent plus. Évidemment. Alors l'horloger, naturellement, lui dit, bah, très bien, je vais faire ce que vous me demandez, mais donnez-moi la montre. Donnez-moi la montre. Et le client répond, la montre va bien. Ça n'est pas de problème. Mais ce sont les aiguilles qui se sont arrêtées. Ça pose problème, hein. Vous avez compris déjà un petit peu la chose, hein. Alors le client feint de ne pas comprendre et il insiste. Mais monsieur, je vous demande de réparer les aiguilles. Je suis là dans votre magasin, vous êtes un horloger, réparez-moi mes aiguilles. Alors imaginez-vous l'embarras de l'horloger. Je ne sais pas si c'est la barbe, mais enfin bon, toujours est-il qu'il commence à se poser des questions, et puis il tente d'expliquer, mais sans succès, qu'il lui faut forcément la montre pour réparer les aiguilles. Alors le client, qui avait l'air d'être assez obtus, hein, enfin, ok, il devait pas, Mais toujours est-il qu'il est sorti furieux, il a claqué la porte en grommelant, en disant « Mais qu'est-ce que c'est que cet horloger ? Je lui apporte mes aiguilles, il n'est pas capable de les réparer. » Alors écoutez bien, il y a une morale dans ça, il y a une conclusion. C'est que beaucoup de gens, je dis bien que beaucoup de gens agissent de la même façon à l'égard de Dieu. Ils veulent bien de Dieu, ils veulent bien et ils attendent beaucoup de lui, mais ils refusent de se livrer complètement et totalement à lui. Alors vous avez un problème d'aiguille ? Eh bien donnez votre cœur. Parce que les aiguilles, elles sont... C'est sur le cœur que ça marche. Eh oui, donnez-lui votre cœur. Alors à ce moment-là, vous pouvez toujours dire, « Mais Seigneur, tu me répares. » Mais si on fait exactement le contraire de ce qu'il attend de nous, comment voulez-vous ? « Seigneur, tu me répares à distance. » C'est difficile. Non, Dieu ne répare pas à distance, il veut vraiment rentrer en nous. Il veut rentrer dans notre cœur, il veut toute la place, parce qu'autrement ce n'est pas possible. Alors je le dis et je le redis, c'est que l'organisme a ses limites. La résistance psychique aussi, et à force de forcer, il y a forcément court-circuit, il y a overdose. C'est-à-dire que ça va trop loin. Overdose de vivre. Et à ce moment-là, on ne trouve de goût à plus rien du tout. On n'a même plus la force d'aller rencontrer les autres. On se renferme, on se recroqueville, on se replie sur soi. On ne va plus, on ne lit plus la parole parce que bon, elle ne nous dit plus rien. On ne chante plus des cantiques. Alors, on a dans nos églises quelquefois des chrétiens qui sont tombés dans un état de tristesse. Et leur péché dans cette affaire, ce n'est pas des péchés grossiers. C'est qu'ils n'ont pas vu que finalement ils appartenaient au Seigneur, ils n'ont pas respecté certaines règles d'hygiène, tout simplement, qui étaient nécessaires. Parce que c'est aussi à travers notre corps que nous glorifions le Seigneur, n'est-ce pas ? Mais on ne fait pas de notre corps ce que l'on veut. Hein. Et on dit, on brûle la chandelle par les deux bouts. Et bien au bout d'un certain temps, si vous tenez le milieu, vous allez vous brûler. Hein. C'est une image. Le vrai repos, Jésus le propose à quiconque veut le prendre avec sérieux et en considération. Et il lance cette parole, ce message universel, « Venez à moi !» Venez à moi. Alors bien sûr, nous avons tout un environnement, et Dieu soit béni, que nous ayons des spécialistes, des médecins, des infirmières, et ceci, etc., avec des psychologues, et tout ce que vous voudrez. Mais Jésus a dit « Venez à moi !» C'est-à-dire... Cessez de vous disperser. Vous qui êtes chargés et fatigués de toutes sortes de fardeaux et de pesanteurs accablants. Je ne sais pas dans quel état ou dans quel état d'esprit ou de cœur vous êtes venu ce matin, mais je voudrais que cette parole vous fasse du bien. Moi, Dieu me l'a donnée et j'espère qu'elle va vous faire du bien. Parce que ce n'est pas seulement de l'entendre, mais après c'est de la vivre. Et le Seigneur va vous aider maintenant à la vivre. Moi je ne suis qu'un petit peu comme le médecin, je prescris une ordonnance. Hein. Et puis l'ordonnance, vous allez en faire ce que vous allez voir après le culte. Soit vous allez dire, oh bon non, moi, je peux m'en passer, et à la poubelle. Ou alors vous allez voir le pharmacien, et vous lui dites, voilà, mon pasteur m'a dit... Non, vous lui dites pas ça parce qu'il ne va pas comprendre. Non, vous allez tout simplement eh bien, mettre en pratique et de dire « Oui Seigneur, c'est vrai que je vais un petit peu trop loin. Je pousse un peu les choses. Et c'est vrai que j'ai besoin peut-être de reprendre une vitesse de croisière un petit peu plus ralentie. » Alors, chargés et fatigués de toutes sortes de fardeaux. Et Jésus nous fait la promesse, elle est formelle, « Je vous donnerai du repos. » Et le repos, c'est quoi ? C'est la paix. On ne peut pas se reposer en dehors de la paix. Il y a des gens qui vivent dans des concentrations urbaines ou dans des concentrations immobilières où il y a toujours du bruit. Bruit en dessus, bruit sur les côtés, de tous les côtés. Mais on ne peut pas se reposer quand vous avez du bruit. C'est peut-être ce que vous vivez, hein. Des voisins bruyants, des voisins qui font tout ce qu'ils veulent jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. Non, parce que le mot repos est lié au mot paix. Paix et repos, repos et paix, ça va ensemble. Alors il faut qu'il y ait cette paix qui vienne à l'intérieur de nous-mêmes. On va en parler. Sans la paix, et la paix c'est l'image de la réconciliation aussi. Hein. Réconciliation, il ne peut y avoir de vrai repos. Je vous donne ma paix. C'est écrit ici. Je vous laisse ma paix. Et c'est la paix du cœur dont nous avons besoin. Ouais. Nos oreilles peuvent être encore frappées par des décibels, mais la paix du cœur, ça commence par là. Et ça induit la paix avec Dieu, la paix avec autrui, et la paix avec soi-même. C'est une totalité. Vous avez remarqué ? Encore ? Une notion tripartite, hein, trois. Mais c'est comme ça que ça marche. La paix est impossible aux révoltés, et je dirais aux survoltés. Dans Ésaïe, chapitre 57, on va lire un tout petit passage. Ésaïe 57, verset 17, il est dit ceci. Il y a des mots qui sont forts. À cause de son avidité coupable. L'avidité, c'est une précipitation, c'est une fièvre. Je me suis irrité et je l'ai frappé, je me suis caché dans mon indignation. Et le rebelle a suivi le chemin de son cœur, j'ai vu ses voies et je le guérirai. Vous vous rendez compte que même quand on fait des bêtises, le Seigneur est là aussi pour nous donner sa grâce, pour nous dire, eh bien voilà, allez, on repart ensemble. Et puis tu vas repartir sur de nouvelles bases, tu vas vivre autre chose. Alors c'est bien dit, hein. Il est dit à ce moment-là, je le guérirai et je lui servirai de guide. Là où il s'est égaré précédemment, eh bien moi je lui montrerai le chemin dans lequel il doit marcher. Et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Je mettrai la louange sur ses lèvres, paix, paix à celui qui est au loin et à celui qui est près, dit l'Éternel. Je les guérirai, mais les méchants sont comme la mer agitée. Elle ne peut se calmer et dont les eaux soulèvent la vase et le limon, il n'y a point de paix pour les méchants. Dit, mon Dieu, mes frères et sœurs, on ne fait pas partie des méchants. Dans le terme de méchant, il est qualifié l'incrédule, celui qui se refuse à Dieu. Mais nous ne nous refusons pas au Seigneur. Nous voulons véritablement qu'il soit notre Seigneur, celui qui règne, notre roi, celui qui règne en nous. Et ça, c'est véritablement ce que Dieu veut nous dire ce matin. Écoutez cet autre texte qui émane de l'apôtre Paul quand il dit ceci. La notion de repos et de paix est liée. Mais maintenant, en Jésus-Christ, c'est-à-dire ça nous concerne, vous qui étiez éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus. Il est venu annoncer la paix à ceux qui étaient au loin et la paix à ceux qui étaient au près. Eh bien, merci Seigneur de ce que je le sais. Mais je vais en faire quelque chose de ça. J'étais éloigné, tu m'as rapproché. Et en Christ, il y a eu ce traité de paix. Et pourquoi ? Pour que cette humanité rachetée rentre dans le repos, dans le vrai repos. Le seul lien, nous en sommes convaincus, le seul lien rétablissant la paix, c'est Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Si nous cherchons la paix en dehors, la Bible nous dit que Jésus est le prince de la paix. Et je suis toujours affligé profondément lorsque je vois les hommes à l'extérieur qui veulent faire la paix, mais sans Jésus. On entend parler de paix en ce moment. On avait un grand personnage de l'Orient qui est venu visiter notre région, là, et qui était encore peut-être. Alors bien sûr, c'est ceci, c'est cela, etc. Mais sans Jésus, il n'y aura jamais de paix. Parce qu'il est le prince de la paix. Et c'est lui qui, par ses paroles éternelles, paroles universelles, qui vont au-delà des pensées, des philosophies, des théologies religieuses ou autres des hommes, c'est lui qui nous a dit qu'il était venu établir la paix. Alors sans lui, ce n'est pas possible. Dans le livre des Actes des Apôtres, brièvement, tout simplement pour étayer cette dernière pensée que je suis en train de présenter devant vous, un beau texte également, quand il nous est dit ceci, Actes chapitre 3, verset 19, « Repentez-vous donc, il est dit, et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Ça, c'est l'acte de réparation, de jonction, de communion, pour que vos péchés soient effacés, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, c'est-à-dire Jésus-Christ, des temps de rafraîchissement. Alors, rafraîchissement climatique, non merci. Mais rafraîchissement moral et spirituel, alors nous sommes preneurs. Hein, dans un monde de tension, dans un monde qui brûle. Et qui quelquefois, je me demande, assis sur un baril de poudre, ça n'explose pas. C'est parce que Dieu est souverain, il maintient encore les choses. Hein. Mais il arrivera un jour et nous le savons. Alors, rafraîchissement, je vous donnerai du repos. Frères et sœurs, je ne sais pas quelle était votre semaine. Je ne sais pas, je fais à court terme. Mais toujours est-il que Dieu nous propose le rafraîchissement. comme une bonne nouvelle pour celui qui est fatigué et qui vient d'une terre lointaine. Désaltérez-vous, mes frères et sœurs, de la présence, de la parole, de l'Esprit de Christ. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Mais faut-il le vouloir ? Et j'ajouterai à cela, peut-être, vous avez du mal à aimer. Et quand je dis vous avez du mal à aimer, vous avez du mal à vous aimer tel que vous êtes. Et vous avez peut-être du mal à ce que Dieu vous aime et vous ne voulez pas vous laisser aimer. Eh bien, ça passe par là. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Vous connaissez ce cantique ? On l'a chanté tout dernièrement, là. Hey. Alors, un médecin ou un chirurgien ne peut intervenir que dans la mesure où le patient se laisse opérer. Enfin, on fait tout ce qu'il faut pour qu'il soit... Ça, c'est sûr. Mais nous-mêmes, quelquefois, vous ne croyez pas que le divin chirurgien, le divin médecin, il est là auprès, à notre chevet, pour nous dire « Mais j'ai quelque chose, il faut que je fasse quelque chose, il faut que j'opère quelque chose en toi. Mais tu bouges toujours !» Alors, il ne va pas nous assommer, le Seigneur. Non, il va attendre que nous soyons volontaires et que nous disions « Seigneur ». Et quelquefois, c'est après des souffrances, quand nous n'en pouvons plus. Quand nous avons perdu nos forces comme un naufragé qui se laisse sauver, ramener au rivage, parce qu'il s'est tellement débattu, on n'a pas pu le saisir, on a attendu finalement qu'il soit complètement épuisé pour pouvoir le saisir et le ramener sur le rivage. Et nous sommes un petit peu comme ça, quelque part. Nous nous débattons. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Pourquoi et en vertu de quoi ? Eh bien, tout simplement par un autre texte qui est formidable. Vous le connaissez, vous pourriez presque le citer de mémoire. Dans Ésaïe 53, parce que ça, c'est incontournable, Ésaïe 53, et vous savez pourquoi ? Parce que c'est l'Évangile avant. Et au verset 10 et 12, il est dit ceci, « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. » Il s'agit de celui qui nous guérit, attention. « Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains à cause du travail de son âme. » Écoutez bien ça, « à cause du travail de son âme. » Il rassaisira ses regards par sa connaissance, mon serviteur juste, justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité. Parce que Jésus a été brisé à notre place, parce qu'il s'est livré comme otage volontaire. La Bible nous dit qu'il nous a justifiés de toutes nos fautes, qu'il a effacé, et il s'est chargé de notre culpabilité, et il a fait volontairement l'échange de sa vie pour la mort, pour que nous vivions. L'échange de sa vie pour la mort, pour que nous, à travers sa mort que nous croyons, eh bien nous vivions. Ça, aucun homme n'aurait pu inventer une chose pareille. C'est les profondeurs et la sagesse infinie de Dieu. On pourrait dire que Jésus est mort en vaincu, victorieux. J'aime bien cette expression, vaincu, victorieux. Ouais, parce qu'il s'est laissé porter, il ne s'est pas débattu, il n'a pas combattu. Il s'est laissé emporter dans les ténèbres de la mort et de l'enfer, pour que nous en ressortions avec la lumière de la résurrection. Il a choisi la position de malfaiteur. Il a porté la responsabilité des fautes de l'humanité. Il a intercédé. Il plaide, et en ce terme, il est le paraclète, c'est-à-dire l'avocat, le Saint-Esprit, le consolateur pour les coupables. Alors voilà le prix inestimable de la paix et du repos. C'est sur cette base-là, c'est pas sur autre chose. Écoutons encore. « À cause du travail de son âme, mon serviteur juste rassasira ses regards. » À cause du travail de son âme. Lui a travaillé pour que moi je sois sauvé. Et le travail de l'âme de Jésus, c'est un travail de l'âme et de corps. Parce que je considère que la rédemption, elle était en deux temps. C'était pour l'âme de Jésus, Gethsémané, et pour le corps de Jésus, ça a été Golgotha. C'est un tout. C'est la rédemption, c'est la passion, naturellement. À cause du travail de son âme, il rassasira ses regards, qui signifie en clair que Jésus non seulement apporte le repos, mais que lui-même se repose dans l'âme et le cœur de tous ceux qui le reconnaissent comme sauveur et seigneur personnel. Ce qui veut dire, c'est que je peux m'agiter, je peux faire toutes sortes de choses, je peux m'épuiser, je peux être complètement au bout de mes ressources, d'une manière ou d'une autre, d'une façon ou d'une autre, mais une chose que je dois savoir, c'est que quand Jésus me voit me confier en lui, m'abandonner en lui, me perdre en lui, on pourrait dire, mon corps, mon âme, mon esprit, toute la totalité de ce que je suis, il nous est dit qu'à cause du travail de ce qu'il a accompli à Golgotha et à Gethsémané, il nous est dit, il rassasie ses regards. Mes frères et mes sœurs, si vous continuez à vous agiter, eh bien le Seigneur ne peut pas trouver son repos dans un temple, oui parce que c'est ça, dans un temple qui est agité, qui est battu de tout vent. À partir du moment où je rentre dans la dimension, finalement, du fruit de l'esprit qui est la paix, qui est la maîtrise de soi, qui est la patience, alors à ce moment-là, je peux dire que mon Sauveur et mon Seigneur rassasient ses regards dans ma vie. Et il dit, je ne suis pas mort en vain. C'est la victoire. C'est la victoire. Mes frères et sœurs qui êtes agités, considérez que ce n'est pas seulement pour vous, mais c'est aussi la gloire de Dieu. Laissez-vous toucher, laissez-vous réparer, laissez-vous soigner. J'avais raconté une histoire de voilier, vous vous souvenez ? Non, vous ne vous en souvenez pas, mais c'est normal. Et des voiliers de l'ancien temps qui viennent en réparation. Vous avez vu, il y a des chantiers là, ici, hein, à côté. Hein. Alors on voit des bateaux qui viennent et ils ont besoin de réparation, le carénage, enfin toutes sortes de choses, à quelque niveau que ce soit. Mais pourquoi on le fait ? Parce qu'ils vont devoir encore avoir du travail à faire, ils vont traverser encore les océans, mais ils ont besoin à un moment donné d'un autre souffle. Dans la marine ancienne, eh bien, il y avait des voiles. Alors on refaisait les voiles, on refaisait toutes sortes de choses. Pour pouvoir repartir de plus belle, on n'aurait pas l'idée. Et Dieu est un Dieu de grâce et de compassion. Nous sommes aussi ses enfants, mais nous sommes aussi des soldats dans un combat. Et il ne va pas nous envoyer au front continuellement sans avoir été quelquefois un petit peu à l'arrière pour retrouver des nouvelles ressources. C'est normal, c'est logique. Parce que nous avons un Dieu de compassion. Moi, je ne crois pas que Dieu est un Dieu tyrannique et qui envoie ses chrétiens en disant « Allez, jusqu'au bout, vous allez jusqu'à la dernière corde. » Non, c'est pas ça. Dieu a compassion des hommes. Son œuvre est importante, mais les hommes qu'il a sauvés sont encore plus importants que son œuvre. Et ça, il faut s'en souvenir, hein, parce que quelquefois, on ne tient pas cette règle, même dans nos églises. On dit, allez-y, 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 c'est pour le Seigneur, c'est pour le salut des âmes. Ouais, d'accord. Mais on s'est aperçu aussi qu'il y en avait la moitié qui était sur le flanc et qui n'était même plus chrétien du tout après. Dégoûté. Et on a exigé des choses, on a imposé des choses qui ne sont pas normales. Moi, je crois que Dieu aime ses enfants. Et comme vous êtes père et mère, eh bien, si vos enfants travaillent avec vous, il y a ceci et cela, vous n'allez pas jour et nuit leur demander des choses impossibles, quitte à leur faire perdre leur santé. Pas du tout. Eh bien, notre Père, qui lui est parfait, il fait encore beaucoup mieux que nous. Beaucoup mieux que nous, parce que c'est l'amour. C'est l'amour. Reposant ses regards. Pour le repos des hommes que Jésus n'a-t-il pas fait, je vais bientôt terminer. Pour notre repos, qu'est-ce que Jésus n'a pas fait pour nous? Notre raison et notre conscience peuvent être prises de vertige devant l'immensité de l'amour rédempteur de Dieu. D'abord à la croix, les souffrances, les insultes et le pardon qui en découle. Ensuite, dans son effort, dans l'effort de Jésus pour offrir le repos, Jésus n'a connu aucune trêve, lui n'a connu aucune trêve. 3 années harassantes, parler, guérir, consoler, et j'en passe et des meilleurs. Sans répit, il pourra dire à ses disciples qui sont prêts à le suivre partout, il dira, mais les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Et vous comprendrez que dans le contexte, Jésus leur dit maintenant un peu de calme. Même avec la plus grande mission, même avec la plus grande responsabilité, si nous sommes apôtres, évangélistes, pasteurs et tout ce que vous voudrez, il y a des temps où Dieu nous dit, ben maintenant, tu te reposes parce que j'ai encore une autre mission, mais tu ne pourras pas commencer l'autre avant d'être reposé et d'avoir fait le point avec toi-même. Jésus, dévoré par le zèle de sa mission, annoncé et sauvé, interrogé sans cesse par ses disciples qui le harcèlent, sollicité par des foules immenses de malheureux, de malades, harcelé par ses adversaires, talonné par des gens qui ne lui laissaient même pas le temps de manger, et nous le voyons épuisé sur la marchelle d'un puits à Sichar, réclamant un peu d'eau à une Samaritaine. Et encore là, même Jésus profitera pour prêcher l'Évangile. Jésus fatigué du voyage. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour que nous ayons finalement le repos? Nous découvrons encore Jésus veillant et priant des nuits entières dans la montagne. Un jour, il s'est endormi de fatigue dans le fond d'une barque. Et là, son sommeil n'a même pas été respecté, puisque ses disciples se sont précipités sur lui et lui ont dit « Mais maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» On ne l'a même pas laissé dormir. Pas de repos pour Jésus. Non, pas de repos pour Jésus. Jusqu'à ce qu'il ait tout accompli, qu'il ait prononcé cette parole. « Père, tout est accompli, je remets mon esprit entre tes mains. » Et il l'a fait pour nous, pas pour lui. Pour nous. Et moi, je voudrais vous dire, c'est pour ça qu'il faut bien prendre la notion des choses, faut bien prendre la mesure des choses. Maintenant, l'œuvre est achevée, mes frères et sœurs. L'œuvre est achevée. Si nous dépassons les limites que Dieu nous a données, alors ce n'est plus à la gloire de Dieu, mais c'est pour notre gloire à nous. Même dans l'œuvre de Dieu. Je parle comme je parle, vous me connaissez. Non. Parce qu'il y a une dimension charnelle, religieuse peut-être de la foi et de la vie, mais il y a une dimension spirituelle. Et la dimension spirituelle, c'est Dieu qui nous conduit. Et on ne chute pas sur tout ce qui bouge. Parce que si vous voulez, ben, vous verrez bien, mais vous savez ce que l'on doit faire. C'est une œuvre durable. C'est une œuvre qui demeure. Et si elle est spirituelle, elle va durer. Si c'est une œuvre charnelle, elle partira. Il ne restera rien. Et vous aurez construit pour rien. Si l'Éternel ne bâtit la maison, nous dit le psaume, peu importe, vous le retrouverez, eh bien ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Marchons au pas de Dieu. Marchons dans sa dépendance. Laissons-nous inspirer et conduire par le Saint-Esprit. Vous savez, dans certaines situations difficiles, même quelquefois complexes, voire extrêmement graves, heureusement qu'on ne s'est pas précipité. On ne serait peut-être pas là aujourd'hui, hein, dans certains cas. Heureusement. Combien de seigneurs de foi m'a dit du calme. Du calme. Alors si on sait l'écouter, eh bien, on s'aperçoit que quand il fait les choses, quand les solutions arrivent, ce n'est pas des solutions bricolées, c'est des solutions qui sont durables. Et on peut dire, ah non, pas à nous Seigneur, mais à toi la gloire, hein, parce que c'est toi qui l'as fait, parce que moi si je m'étais écouté, boum. Ouais, et c'est ça ce que l'on veut. Parce que derrière les solutions de Dieu, il y a toujours la notion de salut, de paix. Et pour le bien de tous. Pas de repos pour Jésus. Alors, il peut nous dire les uns et les autres, venez à moi, je vous donnerai du repos, parce que c'est lui qui sait ce que c'est que le vrai repos. Maintenant, Jésus a une demeure où se reposer sur la terre. Vous savez où il habite, Jésus? Vous savez qu'un des disciples, dans l'évangile de Jean, est venu lui dire, mais où demeures-tu, Jésus? Vous connaissez l'évangile de Jean, chapitre 1er. On est venu lui dire, mais où demeures-tu? Et moi, je voudrais dire que Jésus a une demeure où se reposer sur terre, le cœur de ceux qui l'acceptent. Ceux qui l'acceptent. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Si quelqu'un m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Paul nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un ouvre la porte, hein, vous connaissez la suite, alors à ce moment-là, je rentrerai. Mais si vous ouvrez, hein, si vous dites au Seigneur, laisse-moi me débrouiller tout seul, je suis assez grand garçon et tu vas voir ce que je suis capable de faire. Ah oui. Si quelqu'un m'ouvre la porte de son cœur, m'offre la direction de sa vie, pour l'animer, pour l'orienter, pour l'ennoblir, alors Jésus promet d'y faire régner sa paix, d'assurer un repos profond que rien au monde ne pourra troubler. Alors il a raison. Nous sommes le temple de Dieu si nous sommes comme ça. Et c'est là où Jésus a sa demeure. Où tu habites, Jésus? J'habite chez Paul, chez Pierre, chez Jean, chez Jeanne, chez... Voilà. Ouais. C'est là où il habite. Je vous donnerai... Vous trouverez le repos. Alors, je finis. Puisque nous en parlons aujourd'hui, Jésus trouvera-t-il dans ma vie la paix nécessaire pour qu'il s'y repose? Interrogation. Elle est forcée, l'interrogation. Deux choses sont susceptibles de troubler le repos que Dieu veut voir en nous. Deux choses que vous connaissez bien. L'inquiétude. L'inquiétude, c'est de l'incrédulité. L'inquiétude et le bruit. Mais je vais m'expliquer sur le mot bruit. L'inquiétude, d'abord, si Jésus entre dans mon fort intérieur et y trouve une foi mal affermie, si je suis mal guéri de mes passions, encore ballotté par l'indécision et entre le bien et le mal, s'il y a en moi une atmosphère d'incertitude et de fièvre, sera-t-il en repos? Se reposera-t-il et serai-je en paix? La réponse, vous pouvez la donner tout de suite, c'est qu'on n'est pas en paix quand c'est comme ça. Et lui ne peut pas se reposer. Mes frères et mes sœurs, il faut combattre l'inquiétude comme quelque chose de destructeur, de nocif, un véritable poison dans la vie des enfants de Dieu. L'inquiétude. Ouais. Jésus nous en parle. On en parle très abondamment dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Seigneur, délivre-moi de mes inquiétudes. C'est quelquefois plus fort que nous, hein. Je comprends. Mais l'inquiétude trouve sa solution dans la foi, dans l'abandon. Je m'abandonne. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Vous avez des soucis économiques, financiers, professionnels? Vous avez des soucis conjugaux? Vous avez des soucis familiaux? Vous avez tout ce qu'il faut, hein. Vous avez tout ce qu'il faut pour exercer la foi. Vous avez tout ce qu'il faut pour voir Dieu être à l'œuvre. Et il va vous conduire, chacun selon ce qu'il vous connaît. Et comme il faut. Et vous verrez, vous pourrez dire, quand vous aurez passé le cap et que vous aurez fait l'expérience, en disant, mais Seigneur, tu es merveilleux. On a fait des expériences dans notre vie magnifiques. Où on était, je le dis, à ma propre honte, mais on a passé des moments où quelquefois j'étais mort de peur. Et puis, malgré le brouhaha, et bien, ce que Dieu a compassion quand même, il a compassion de nous, même quand quelquefois on vibre comme une feuille au vent. Et quelquefois on a vécu des choses, et même au cœur, Dieu nous a parlé, il nous a montré certaines choses, et nous avons suivi malgré tout, avec toute notre fragilité, toute notre précarité, nous l'avons suivi, et après nous avons vu ce qu'il avait préparé pour nous, c'était formidable. Et ensuite nous nous sommes dit, mais pourquoi tu t'es inquiété? C'était si facile. Personne ne dit rien là. Mais c'est vrai que c'est si facile avec le Seigneur, mais le problème c'est qu'on ne veut pas passer sur la table d'opération. On se débat. Et on dit, Seigneur, mais t'es sûr que c'est ça? T'es sûr que c'est ceci? Et puis tu ne te trompes pas. Si t'as besoin d'un petit conseil, je peux te le donner parce que je connais mon problème. Seigneur dit, tais-toi. Crois. C'est tout. Hein. Enfin, je le dis avec ma façon de faire. Et puis la deuxième chose, c'est le bruit. Alors, le bruit, c'est pas seulement les mobilettes. Hein. Les bruits du monde sont abrutissants. Les cris, les hurlements, les gémissements, les sanglots, les expressions de la peine ou de la joie, mais c'est dans le bruit, le tapage que nous menons nous-mêmes en empêchant le repos de Jésus et nous nous empêchons de notre propre. C'est le tapage que nous menons nous-mêmes. On peut toujours récriminer sur les autres qui font du bruit dans la rue ou dans l'appartement et puis ceux qui ne respectent pas finalement certaines phases de la journée où il faut respecter les autres naturellement, mais on fait du bruit nous-mêmes. On en fait du bruit, croyez-moi. Et quel genre de bruit s'agit-il? C'est par exemple l'affirmation forcée de ma volonté ou de ma personnalité. Quelquefois on fait du bruit, on fait du bruit auprès des autres. Non, c'est moi qui ai raison et c'est toi qui as tort. Et bien ça, c'est une affirmation de notre volonté, de notre personnalité. Ou alors, ceux qui sont orgueilleux, ceux qui sont présomptueux, ceux qui pensent tout savoir et tout connaître, ça c'est du bruit aussi. Enfin, c'est des courants d'air. Oui, plutôt. Mais en tous les cas, ça perturbe. Ça les perturbe autant eux que les autres qui sont autour. C'est un bruit qu'il n'est pas forcément audible, mais il afflige. Il fait mal à l'intérieur de nous-mêmes. Les caractères, les tempéraments qui sont indomptés, je ne dis pas indomptables, mais indomptés. Les gens qui affirment certaines choses, les ambitions, toute cette prétention de, dans mes affaires, que je mène à tambour battant et que je suis obligé de faire suivre les autres, enfin j'oblige les autres à me suivre parce qu'ils n'ont pas le choix. Un activisme débordant, où il ne me reste plus le temps au recueillement, à la méditation, à la prière. Comment Je pose la question, mais comment dans un tel brouhaha, Dieu peut encore me parler et me diriger ? Rentre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Seigneur frappe à notre porte. Et il nous dit, disons, j'ai quelque chose à te dire. J'ai quelque chose d'autant plus à te dire, c'est que ça fait des mois et des années que tu me demandes que je te réponde, mais tu n'entends pas. Tu n'entends pas. Je voudrais bien rentrer dans ton intimité. Je voudrais bien te remettre la réponse et l'exaucement. Tu m'as demandé, tu m'as posé une question, des questions. Je vois bien que ça te travaille, je vois bien que tu te détruis avec ces questions, mais tu n'es pas capable d'entendre la réponse. Pourquoi ? Parce que tu as du bruit à l'intérieur de moi, de toi-même. C'est un bruit infernal, c'est le brouhaha, on ne peut pas te dire quelque chose. Notre égoïsme, notre orgueil, nos impatiences. Alors il y a un petit cœur qui nous dit, Seigneur, oui, Seigneur, fais silence en mon cœur. Fais silence en mon cœur. Et il nous répond, c'est dans le calme et la confiance, c'est dans la tranquillité et le repos que sera ton salut. Alors, du calme, Seigneur, apporte-moi le calme dont j'ai besoin. Et vous savez, on n'est pas aidé dans le monde dans lequel on est. Ouais, on n'est vraiment pas aidé. Dans le psaume 116, ça sera la dernière citation, il est dit ceci, « Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. » Alors je souhaite que vous puissiez repartir dans le repos parce que l'Éternel vous a fait du bien ce matin. Qu'il vous a fait vraiment ce bien qu'il avait prévu. Repos déjà dans cette vie tourmentée. Repos incomparable et éternel dans la vie à venir. Ce repos s'appelle Jésus. Et sans Jésus, je dis bien sans Jésus, les hommes continueront à s'agiter aussi vainement qu'inutilement. Mais en tous les cas, Seigneur, tu m'as dit de venir à toi et tu me donnerais le repos. Que Dieu nous bénisse. On va prier quelques instants. Je vais demander tout simplement, eh bien, là, à...